Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Les choses bougent dans le monde de la finance. Il y a de plus en plus d'initiatives qui voient le jour pour une finance éthique, durable et plus transparente. Parce qu'il est vrai que ce secteur souffre d'une grande opacité qui nous empêche de comprendre la réalité de la situation et des changements à l'œuvre. Dans cet épisode, Philippe Zawati nous apporte un éclairage sur comment la finance se transforme, en particulier par le prisme de la gestion d'actifs pour des investissements durables et responsables. Bonne écoute. Bonjour Philippe Zawati.
Bonjour.
Philippe, vous êtes le directeur de Mirova, un fonds d'investissement durable qui fait partie du groupe Natixis. Et vous venez de sortir un roman passionnant qui raconte l'histoire d'un financier parisien engagé pendant le confinement et qui s'appelle « Applaudissez-moi ». Pendant ce dernier confinement, vous avez d'ailleurs lancé l'initiative Recovery pour penser le monde d'après. Donc aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de ce fameux monde d'après, du secteur de la finance et de ses enjeux face à la transition et de comment est-ce qu'on peut s'y engager. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de votre parcours ?
Bien sûr, bonjour, je m'appelle Philippe Zawati, j'ai 54 ans, j'ai fait toute ma carrière dans la gestion d'actifs depuis une trentaine d'années maintenant, et je dirige aujourd'hui Mirova, qui est une société de gestion d'actifs, filiale du groupe Natixis, que j'ai créé au sein de Natixis en 2014, et qui s'est donné pour vocation d'accompagner le développement durable grâce à la finance.
D'accord, ben merci pour cette introduction. Je vous propose dans un premier temps qu'on essaie d'expliquer un petit peu ce qu'est un fonds d'investissement, à quoi ça sert et comment ça fonctionne.
Oui, bien sûr. Alors, une société de gestion d'actifs qui gère plusieurs fonds d'investissement, hein, comme Mirova, c'est une structure qui va gérer pour compte de tiers, c'est-à-dire pour le compte d'investisseurs qui peuvent être des investisseurs institutionnels, mais qui peuvent être aussi des épargnants. Et donc aujourd'hui, par exemple, Mirova, nous gérons un peu plus de 16 milliards d'euros d'actifs qui nous ont été amenés par nos clients, nos investisseurs, en France, en Europe, partout dans le monde aussi, puisque nous avons une structure aussi aux États-Unis, et nous investissons pour leur compte cet argent dans des entreprises ou dans des projets, donc dans différents types de ce que nous appelons des classes d'actifs. Par exemple, nous investissons dans des actions cotées, en investissant directement sur les bourses. Nous investissons dans le marché obligataire, c'est-à-dire que nous prêtons de l'argent à des entreprises à travers des obligations. Et nous investissons aussi directement dans des projets, par exemple des fermes solaires ou des projets éoliens ou des projets d'agriculture durable. Et donc, tout ceci donc va concourir à apporter une performance financière aux investisseurs qui nous ont apporté leur épargne.
D'accord. Et ces investisseurs, donc ça peut être à la fois des particuliers et ça peut être donc des institutions, d'autres entreprises. Quelles sont les règles en fait pour travailler avec un gestionnaire d'actifs comme Mirova ?
Ça peut être effectivement tout ce type d'investisseurs. Alors évidemment des grands investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds souverains qui peuvent nous apporter des montants très significatifs, mais aussi des épargnants qui vont acheter des parts de fonds d'investissement directement auprès de leur agence bancaire, auprès de leur conseiller financier ou à l'intérieur de leur contrat d'assurance vie.
D'accord. Et alors, pour être un peu cru ou un peu direct, mais qu'on comprenne bien, à quoi ça sert en fait de passer par un gestionnaire d'actifs ?
C'est évidemment, ça sert à bénéficier de l'expertise des équipes du gestionnaire d'actifs. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'expertise dans un gestionnaire d'actifs? On trouve des équipes qui vont, par exemple, analyser le comportement des entreprises, leur performance financière, leur comportement aussi extra-financier, c'est-à-dire la façon dont elles gèrent leurs externalités, leur impact environnemental et social. Et puis, ces équipes-là vont être en capacité de créer des portefeuilles diversifiés. Quand on achète une part de fonds d'investissement, on ne va pas investir simplement dans une action, mais on va investir dans un portefeuille qui va comporter 40, 50 actions qui vont être investies en France, en Europe, aux États-Unis. Et donc, la capacité à construire ce portefeuille diversifié, à le gérer dans le temps, à réagir aux différentes informations que les entreprises peuvent communiquer, voilà, c'est ça l'expertise effectivement des gérants de fonds d'investissement.
Et comment fonctionne le business model d'une telle entreprise ?
Eh bien, les gérants d'actifs donc sont rémunérés sous la forme de frais de gestion, c'est-à-dire que chaque année, une petite partie, un pourcentage des actifs gérés vont être versés aux gérants d'actifs.
Bon, et avec Mirova, vous n'êtes pas, vous ne faites pas de la gestion de n'importe quel actif. Vous êtes quand même engagé. Alors, quelle est la différence entre un gestionnaire comme Mirova et un gestionnaire classique ?
Alors, depuis sa création, nous avons voué Mirova à ce qu'on appelle l'investissement durable, l'investissement responsable, c'est-à-dire que toutes nos décisions d'investissement sont prises en prenant en compte les impacts environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que nous avons une équipe d'une quinzaine de personnes qui est complètement dédiée à l'analyse environnementale des entreprises, environnementale et sociale des entreprises. Donc, ça veut dire essayer de comprendre quelle est la stratégie de l'entreprise, est-ce qu'elle développe des produits et des solutions qui vont être favorables au développement durable, est-ce qu'elle gère bien ses risques à long terme, est-ce qu'elle a pris des engagements pour diminuer son impact sur le climat et sur la perte de biodiversité, est-ce qu'elle gère bien les questions de déforestation importée, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est au cœur de notre décision de gestion. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette décision de gestion, elle s'appuie à la fois sur de l'analyse de risque et sur de l'analyse d'opportunité. C'est-à-dire qu'on veut à la fois éviter d'investir dans des entreprises qui ont un comportement négatif et surtout détecter les bonnes opportunités d'entreprises qui offrent des solutions et donc qui vont se développer dans les années qui viennent et donc avoir une performance financière meilleure que le marché.
Et comment vous faites pour ça ? Parce que j'imagine que lorsque vos clients viennent placer leur argent chez vous, ils ont certains objectifs de rentabilité à court terme, moyen terme, long terme. Comment est-ce que ça se passe ? Et comment est-ce que vous faites pour mettre ça en balance avec des investissements nécessaires, par exemple, dans des entreprises d'avenir, mais qui n'ont pas forcément la rentabilité financière ?
Alors, nous, on recherche en même temps la rentabilité financière et l'impact environnemental et social. Il n'y a pas d'arbitrage qui est fait où on décide d'abandonner l'un pour obtenir l'autre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense qu'on est dans un moment où l'économie est en train de changer, est en train d'entrer dans une zone de mutation importante, et on le voit bien en ce moment, qui consiste à mettre en avant énormément de solutions, de nouveaux produits. Aujourd'hui, une grande partie de l'innovation qu'on trouve dans les entreprises, elle est justement orientée vers des solutions au développement durable dans le domaine de l'énergie propre, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de nouveaux matériaux, dans le domaine de l'utilisation de la technologie et de l'IT pour piloter la distribution d'énergie. Donc il y a tout un tas d'innovations aujourd'hui qui offrent des opportunités extrêmement importantes et donc des performances financières à venir. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une situation d'arbitrage où on dirait qu'il y a l'éthique d'un côté et la performance de l'autre. C'est bien l'accompagnement d'une évolution et d'une transition économique que l'on essaye d'accompagner.
Et pourquoi est-ce que tous les gestionnaires d'actifs ne font pas comme vous alors ?
Alors, bon, après, c'est une question de style d'investissement et de vision du monde. Aujourd'hui, d'abord, la plupart des gérants d'actifs, comme vous pouvez le voir, sont en train de nous rejoindre sur cette thèse d'investissement. Il y a 10 ans, quand on a commencé à réfléchir puis à créer Mirova, clairement, on était des pionniers et peu avaient imaginé ou en tout cas souhaitait anticiper cette évolution. Peut-être qu'il pensait que cette évolution était peut-être trop dans le long terme. Nous, on a souhaité l'anticiper et y travailler. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a quand même une très forte convergence. Beaucoup d'entreprises de sociétés de gestion d'actifs sont en train de nous rejoindre et il n'y a plus beaucoup de monde aujourd'hui qui considère que ces sujets-là sont des sujets de seconde importance. C'est une question ensuite de construction de l'expertise. Ça fait 10 ans que nous travaillons, nous, à construire une équipe, des experts, à réunir ces experts pour comprendre ces évolutions du monde. C'est une façon d'analyser les investissements qui sont disponibles. Aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur, vous savez, vous avez devant vous une innombrable possibilité en termes d'investissement. Des centaines, voire des milliers d'actions qui sont cotées en bourse, beaucoup d'obligations, beaucoup de projets. Comment aborder cette multitude d'opportunités en les filtrant, en essayant de les analyser et ensuite de se concentrer sur les projets que vous considérez comme les plus pertinents? C'est ça qu'on essaie de faire. Il y a peut-être d'autres investisseurs qui ont d'autres visions, d'autres vues, mais ça, c'est un style de gestion qu'on a essayé d'ancrer et de développer ces dernières années.
D'accord, donc c'est plutôt positif. D'après votre vision du marché, de plus en plus de gestionnaires se lancent dans des financements plus durables et avec donc moins d'objectifs de rentabilité financière à court terme, mais plutôt sur une vue à plus long terme.
Incontestablement, aujourd'hui, vous voyez que ce qu'on appelle l'ESG, environnemental, social, gouvernance, est en train de se généraliser. Tous les gérants d'actifs aujourd'hui en parlent. Après, est-ce qu'ils ont développé une expertise pour le faire de façon efficace? C'est une autre question. Mais en tout cas, tout le monde aujourd'hui considère qu'on ne peut plus gérer efficacement un portefeuille sans prendre en compte ces éléments.
D'accord. Et donc, vous êtes capable de voir si finalement, dans l'entreprise, il y a de réelles solutions ou actions qui sont mises en œuvre sur des objectifs de développement durable, que ce n'est pas juste de la communication.
C'est tout l'objet, effectivement, de nos analyses. C'est de bien comprendre, de bien vérifier que les engagements qui sont pris sont tenus, d'une part, et que ces engagements sont bien des engagements qui sont au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que ce ne sont pas des décisions qui sont à la marge, annexes, juste pour effectivement faire bien ou faire de la communication, mais que ça induit une véritable transformation en profondeur de la stratégie de l'entreprise. C'est ça que nous essayons de vérifier.
Parce que ce n'est pas évident, alors je parle pour un citoyen en règle générale, de faire le tri entre de la communication, j'allais dire de la peinture verte, et finalement des actions qui sont réellement mises en place.
C'est pas forcément évident parce que pendant très longtemps, par exemple, les entreprises ont publié des rapports de développement durable. Et quand on publie un rapport de développement durable, tout a l'air très beau. On aligne simplement toutes les bonnes actions que l'on fait. Simplement, on a du mal à mettre ces bonnes actions au regard de la taille de l'entreprise et de ses enjeux. Et donc, c'est important de bien comprendre que le rôle de l'entreprise, c'est pas seulement d'avoir un bon comportement ou des bons processus gestion des accidents de travail ou des émissions de pollution, etc. Le rôle de l'entreprise aussi, c'est de se dire comment je me positionne vis-à-vis de l'intérêt général, vis-à-vis d'un business plan mondial de la planète qui est, par exemple, qu'on peut résumer à travers les objectifs du développement durable de l'ONU. À l'intérieur de ces grands enjeux, de ce grand business plan, c'est quoi le rôle que j'ai, moi, en tant qu'entreprise? Quelle est la partie dont je me sens responsable et comment je fais évoluer ma stratégie pour être positif pour l'intérêt général? C'est ça le vrai sujet. Hein, d'où d'ailleurs toutes les réflexions qui existent en ce moment autour de l'entreprise à mission. Hein, Mirova va devenir entreprise à mission dans les prochains jours. C'est bien cela, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnecte le rôle de l'entreprise avec l'intérêt général.
D'accord, vous allez devenir entreprise à mission bientôt. Bah, félicitations.
Merci.
Il y a beaucoup de fonds, enfin de gestionnaires d'actifs, pardon, qui sont aussi entreprises à mission en France ou en Europe.
Il y en a quelques-unes. Alors, l'entreprise à mission, c'est une spécificité française. Au niveau international, on va annoncer, nous, en même temps, qu'on est société à mission et labellisée B Corp. Donc là, c'est un label international. Et donc, oui, en France, il y a quelques sociétés de gestion qui ont annoncé qu'elles avaient choisi le statut de société à mission.
Et pour qu'on comprenne bien en fait l'enjeu d'avoir des gestionnaires d'actifs qui investissent, de manière durable, quel est le rôle ? Est-ce que vous pouvez expliquer justement le rôle de ces gestionnaires d'actifs dans l'économie ? Pourquoi est-ce que il faudrait les inciter à ce que, comme Mirova, ils financent des entreprises et des projets qui sont uniquement durables ?
C'est un rôle extrêmement important. Enfin, le rôle de la finance au sens large et des gestionnaires d'actifs en particulier est évidemment extrêmement important parce que c'est le carburant hein, de l'économie aujourd'hui, le monde financier. Et donc, aujourd'hui, tous les projets, tous les développements d'entreprises sont financés par différents types de canaux. Donc, quand on est une entreprise ou quand on veut lancer un projet, on va faire appel à des actionnaires d'abord, donc qui vont être des gestionnaires d'actifs, qui eux vont prendre un risque important en étant actionnaires de l'entreprise, et donc ils peuvent perdre la totalité de ce qu'ils vont miser. Hein, ils accompagnent en quelque sorte, ils prennent le risque avec l'entrepreneur, et puis ensuite l'entreprise va pouvoir faire appel à du financement bancaire, par exemple, en faisant des prêts auprès des banques, ou en faisant de l'émission d'obligations qui va être achetée aussi par les gestionnaires d'actifs. Donc c'est extrêmement important parce que vous voyez bien que la finance, en accompagnant ces entreprises et ces projets, elle n'est pas neutre. Beaucoup ont voulu croire que la finance était juste un outil, une boîte à outils complètement neutre, qui n'était là que pour allouer l'argent là où c'était le plus rentable et le moins risqué. Mais en réalité, quand on prend une décision d'accompagner et de financer une entreprise ou un projet, on joue un rôle, on fait un choix. Investir, c'est choisir. Et donc, on l'a beaucoup oublié. Et à partir du moment où on choisit, eh bien, on crée en quelque sorte le monde dans lequel on va vivre demain. Quand on regarde, par exemple, nous, on essaie de montrer la température des portefeuilles. Quand vous regardez aujourd'hui le marché dans son ensemble, le CAC 40 par exemple, le CAC 40, quand vous investissez dans le CAC 40, vous investissez dans un monde qui va nous amener à plus 4, plus 5 degrés. Donc comment construire des portefeuilles qui nous amènent à plus 1,5, plus 2 degrés? C'est ça qu'on essaye de faire. Donc modifier l'allocation des actifs pour amener plus d'argent vers les entreprises et les projets qui vont offrir des solutions qui vont pouvoir modifier la trajectoire.
Et alors, comment on fait ça? C'est quoi les entreprises et les projets qui modifient la trajectoire? C'est des entreprises de quelle taille, qui sont dans quel type de secteur, qui montent quel type de projet, sur quelle géographie?
C'est extrêmement variable. Nous, on investit à la fois dans des grandes entreprises cotées, dans des PME, des ETI. On investit aussi dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On investit dans des projets directement d'énergie renouvelable, de mobilité propre. Donc, il y a vraiment un champ assez large. On investit dans l'agriculture durable, dans la reforestation, dans la conservation des forêts et des océans. On investit beaucoup dans tous les secteurs liés à l'environnement et à la santé. Il y a un champ extrêmement large aujourd'hui d'investissement possible.
Et comment est-ce qu'on fait pour flécher tous les investissements dans cette direction, faire en sorte que les gestionnaires et que tout le monde investisse dans ce domaine-là et réfléchisse à investir de manière durable?
Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent pousser à ça. J'en dirais deux principaux. Il y a d'abord la régulation. Hein. Je crois qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de pression réglementaire envers les financiers pour les pousser à minima à analyser ces impacts environnementaux et sociaux et à faire du reporting sur ces impacts environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est un élément très important parce que ça accélère la prise de conscience des investisseurs que ces sujets-là sont importants. Puis ensuite, il y a la pression des épargnants et des investisseurs eux-mêmes. Et ça, c'est en train de s'accélérer. On est encore probablement assez loin de ce qu'on pourrait faire dans ce domaine. C'est-à-dire que les épargnants n'ont pas encore complètement pris conscience du pouvoir qu'ils avaient pour pousser le système financier dans une direction plus durable. Quand vous allez investir dans votre banque, dans votre compagnie d'assurance et acheter un produit financier, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments, suffisamment de transparence qui permettent à l'investisseur, à l'épargnant, de faire des choix en connaissance de cause. Et pourtant, quand on fait des sondages, quand on interroge les épargnants et qu'on leur demande « Est-ce que vous pensez que c'est important la façon dont votre argent va être investi, à quoi ça va servir ?» Ils disent tous « Oui, bien sûr, c'est important. » Est-ce qu'ils ont vraiment les outils pour ensuite prendre des décisions, c'est probablement pas encore le cas.
Oui, parce que finalement, les épargnants, je crois qu'en France, les placements, c'est principalement l'assurance-vie et le livret A, si je ne me trompe pas, et on n'a pas trop d'informations sur ce qui est fait de cet argent après.
On a peu d'informations. Alors, sur l'assurance-vie, il y a différents types d'investissements en assurance-vie. Vous pouvez investir directement dans ce qu'on appelle les fonds en euros ou dans des unités de compte qui sont des fonds d'investissement, où là, vous avez un peu plus d'informations. Sur les fonds en euros, on a relativement peu d'informations aujourd'hui sur la façon dont les assureurs utilisent cet argent. Il y a peu de reporting qui est fait. Mais là aussi, la réglementation va de plus en plus pousser les financiers à être beaucoup plus transparents. Il y a aussi des labels qui existent, qui permettent d'identifier les produits financiers qui sont les plus durables. Donc, vous avez en France, par exemple, plusieurs labels, le label ISR, le label Greenfin, le label Finansol, qui vont identifier les produits qui sont les produits durables ou les produits environnementaux ou les produits solidaires et donc qui permettent aux investisseurs de faire des choix. Et demain, peut-être, nous espérons que là, dans les trimestres qui viennent, va naître un label au niveau européen, un écolabel européen qui pourra identifier les fonds d'investissement qui sont investis dans des actifs verts.
Alors, je dis ça sans avoir une connaissance précise, hein, mais c'est vrai que de loin, on a l'impression que les normes n'arrivent pas vraiment, que la réglementation se fait assez peu à ce niveau-là. Je dis ça pourquoi ? Parce que l'actualité nous montre en ce moment un député français à l'Europe qui est en train de faire une grève de la faim pour la mise en place de taxes justement sur les transactions financières spéculatives. On n'a pas l'impression que ça bouge de trop. Mais vous, au contraire, vous voyez que les choses avancent et que ça progresse.
Oui, alors bon, évidemment, on peut... Enfin, il faut regarder le chemin parcouru et puis le chemin qui reste à parcourir. On est évidemment très loin d'un système financier qui a été transformé. Hein, le système financier, globalement, dans son fonctionnement au cœur du système, a relativement peu évolué depuis la crise financière de 2007-2008. En revanche, je crois que la finance verte, aujourd'hui, s'est installée. La situation qu'on a aujourd'hui est incomparable par rapport à celle que nous avions il y a 4 ou 5 ans. L'ensemble des régulateurs ont décidé de s'intéresser au sujet. Les banques centrales font aujourd'hui des stress tests, des tests des banques sur les sujets climat. Vous avez effectivement énormément de communication qui s'est développée autour de ça, y compris dans les médias, etc. Donc, je pense quand même qu'on est dans une situation qui a évolué de façon assez forte. Après, le problème qui nous reste, c'est que la première partie, je dirais, de l'objectif est atteinte. La première partie de l'objectif, c'était de passer d'un monde où ce sujet était un sujet de niche, avec uniquement quelques pionniers, à un monde où il devient un sujet général, où tout le monde en parle, et donc le sujet est mis à l'agenda. Ça, je crois qu'on a réussi à le faire. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle ? Comment est-ce qu'on passe de ce monde des pionniers à un monde où, effectivement, on arrive avec le même niveau d'ambition à généraliser cela. Et ça passe sans doute effectivement par une modification un peu plus profonde du système financier. C'est-à-dire que tant qu'on aura une focalisation sur les résultats à court terme qui sera aussi importante que ce qu'on a aujourd'hui, que ce qu'on a eu dans le passé, c'est vrai que ça sera beaucoup plus difficile d'imaginer une accélération de la finance durable. Voilà, moi je suis plutôt optimiste sur l'évolution de ce marché parce que je crois que ce qui s'est, notamment en Europe, et je crois que la grève de la faim de Pierre Larouturou, finalement, elle a lieu. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il fait ça en tant que député européen. Et pour moi, le Parlement européen, la Commission européenne sont les endroits où ces questions-là ont été les plus étudiées, approfondies ces dernières années et où les principales avancées ont été faites. Donc, il me semble une espèce de paradoxe à faire cette action-là à cet endroit-là. Je crois qu'il faut continuer à accompagner ce qui a été fait au niveau européen et on sait quels sont les enjeux aussi au niveau international parce que bon voilà l'Europe a été en avance sur tous ces sujets-là mais la question aujourd'hui c'est aussi de que l'Europe reste en position dominante et que les standards européens deviennent des standards internationaux. Et ça, c'est pas forcément évident. Il y a un gros risque pour que d'autres zones, les États-Unis, la Chine, nous imposent leur façon de voir les choses sur ces questions. Et pour moi, c'est quasiment une question de souveraineté européenne qui se pose aujourd'hui.
D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ça, de quelle manière, quel est le risque, de quelle manière on pourrait se voir imposer des normes américaines ou chinoises en Europe ?
Eh bien, regardez simplement ce qui se passe au niveau des normes financières. Les normes financières aujourd'hui, la façon dont on fait la comptabilité d'une entreprise, les règles comptables qui sont utilisées par les entreprises, sont des règles internationales. Et ces règles internationales sont très largement dominées par le monde anglo-saxon et les structures américaines. Et les dirigeants européens, enfin la Commission européenne, les Européens, ont très peu de poids, très peu de possibilités d'agir pour modifier cette vue et cette façon de comptabiliser les actifs d'une entreprise. Or, c'est très important la comptabilité, c'est très important la façon dont on modélise la valeur d'une entreprise. Ça se passe avec des normes, avec des standards. Ces standards aujourd'hui nous échappent en grande partie en tant qu'Européens. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les standards non financiers, donc les impacts environnementaux et sociaux, vont aussi nous échapper ? Or, là, on a une avance, je pense, au niveau européen, avec notamment tous les travaux qui ont été faits par la Commission européenne sur la taxonomie, par exemple, c'est-à-dire la définition de qu'est-ce que c'est qu'un actif vert. Eh bien, il ne faut pas que ça nous échappe. Or, je vais vous donner juste quelques exemples. Les grandes agences, les agences dites d'analyse extra-financière, c'est-à-dire des agences qui donnent des notations des entreprises en fonction de leurs impacts environnementaux et sociaux, beaucoup étaient des agences européennes. La plupart d'entre elles ont été rachetées par des structures américaines ces dernières années. C'était le cas de Vigeo, c'était le cas de Ecom, c'était le cas de Eris, qui sont toutes aujourd'hui dans les mains de structures américaines. Donc ce risque qu'il y ait une uniformité des standards imposée par une vision anglo-saxonne qui reste quand même dominée par les impacts financiers court terme, c'est un risque important.
D'accord. Et comment est-ce qu'on s'engage pour éviter ça ? Comment est-ce que on met en place les normes européennes ? Comment est-ce qu'on les fait respecter ? Ça passe par du lobbying à Bruxelles, du secteur financier européen. Ça passe par la proposition de nouvelles lois. Comment on fait ?
Oui, ça passe par effectivement du lobbying, ou en tout cas de l'implication sur ce qui se passe à Bruxelles. Donc, moi, j'ai été membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur la finance durable en 2018. On a fait un gros travail de recommandations auprès de la Commission européenne pour faire évoluer un certain nombre de choses dans le secteur financier. Ça a donné lieu au plan d'action de la Commission européenne. C'est de là que sont nés notamment les travaux sur la taxonomie, sur l'écolabel, sur l'évolution de la réglementation, sur la distribution des produits financiers et l'obligation qui va bientôt arriver de poser des questions aux épargnants sur les sujets environnementaux et sociaux. Donc tout ça, c'est né d'une implication de la part des acteurs les plus engagés dans ce domaine. Donc oui, ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est, je crois, s'organiser entre acteurs du marché, créer des coalitions. Nous avons par exemple lancé récemment avec AXA, BNP, Sycomore et Mirova, donc nous avons lancé une initiative pour créer de la donnée sur les impacts des entreprises sur la biodiversité et la nature. Donc créer des indicateurs de façon à pouvoir mesurer ces impacts et donc ensuite prendre des décisions en fonction de ces mesures. Nous venons de lancer récemment, alors c'est sur un sujet complètement différent, mais nous avons annoncé là ces derniers jours la création du Club 30% qui réunit un certain nombre d'investisseurs français pour pousser les grandes entreprises françaises et européennes à avoir au moins 30% de femmes parmi leur comité exécutif et leurs dirigeants. C'est ce type d'action-là, c'est-à-dire des actions coordonnées, consensuelles, entre différents acteurs qui permettent de faire bouger le marché.
Et quand on travaille dans un fonds d'investissement, dans une banque, chez un gestionnaire d'actifs, et que personnellement on porte ces valeurs de transition, comment est-ce qu'on peut s'engager en interne au sein de l'entreprise pour faire bouger les choses?
C'est un petit peu l'histoire de Mirova d'une certaine façon, c'est que quand on était chez Mirova avec quelques collègues, un petit groupe, on va dire, très impliqué sur ces sujets d'investissement responsable, et on a essayé de pousser en interne au sein de Natixis ces idées-là, et à un moment donné, on s'est dit finalement, la meilleure façon de pousser ces idées-là, c'est de créer une structure indépendante qui va faire ça avec une forte conviction et qui va montrer que c'est possible. Et on a proposé ce projet à Natixis en disant on va découper un petit morceau des actifs de Natixis Asset Management et on va créer une entreprise, Mirova, et on va se focaliser là-dessus. Et Natixis nous a fait confiance en soutenant ce projet, et c'est comme ça que Mirova est né en 2014. Donc, cette question, oui, de l'intrapreneuriat, de la façon de développer des nouvelles idées, des solutions au sein de son entreprise, je pense, est importante. Je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut réussir à connecter les valeurs qu'on a au fond de nous, enfin les valeurs personnelles, avec son métier, avec la façon dont on travaille en quelque sorte. Donc connecter la vie professionnelle avec ses valeurs et donc donner du sens à la façon dont on exerce son métier.
Parce qu'il y a des besoins, j'imagine, aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler la finance durable.
Des besoins, oui. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez des besoins, mais oui, il y a des. En tout cas, c'est un secteur en très forte croissance. Il y a énormément de métiers en fait aujourd'hui, il y a une attractivité extrêmement forte aussi. Je veux dire, nous aujourd'hui, maintenant que Mirova est quelque chose, est une marque qui commence à être connue et implantée, et qu'on y associe cette notion de soutenabilité, de durabilité. Nous sommes énormément sollicités par des gens qui ont envie, alors soit de jeunes diplômés qui veulent orienter leur carrière en donnant du sens à leur métier, mais aussi beaucoup de professionnels de la finance ou de l'industrie qui ont envie de faire une évolution dans leur carrière, de modifier leur trajectoire. Et donc, il y a un attrait extrêmement fort aujourd'hui pour ces métiers.
Et justement, quels sont un peu ces métiers de la finance durable? Quelles sont les opportunités dans un futur proche ou même actuel pour quelqu'un qui veut s'y engager? Est-ce qu'il y a des formations particulières qu'on peut suivre?
Alors, il y a beaucoup de choses. C'est assez diversifié parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons des gens qui font de la recherche. Qui analyse les entreprises, donc ça veut dire une bonne connaissance du monde économique, ça veut dire des profils qui nous viennent d'écoles de commerce ou qui ont des expériences professionnelles dans le monde de l'analyse financière ou du conseil. Mais vous avez aussi des spécialistes beaucoup plus techniques, parce que pour comprendre les évolutions du monde aujourd'hui, il faut aussi comprendre les technologies. Donc on va aller chercher des spécialistes en agronomie, par exemple, pour les sujets d'agriculture durable. On va aller chercher des spécialistes de l'énergie, des gens qui sont des ingénieurs dans le domaine de la physique ou de l'énergie. On va aller chercher évidemment ensuite toutes les fonctions qui tournent autour de la gestion de la gestion de portefeuille, c'est-à-dire du contrôle des risques, du marketing, de la communication, etc. Donc ça, ce sont des fonctions plus transverses, plus classiques, mais où on va aller chercher des gens qui ont une fibre, qui veulent développer ces métiers qui sont des métiers traditionnels, mais dans un environnement qui est nouveau.
D'accord. Et vous voyez avec Mirova qu'il y a beaucoup de demandes pour rentrer chez vous en ce moment ?
Énormément. Énormément.
C'est plutôt très positif.
C'est très positif et très, très gratifiant. C'est probablement l'un des signes les plus gratifiants de la réussite d'une entreprise, oui, c'est certain.
À un niveau plus personnel, donc, je le disais en introduction, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Applaudissez-moi », que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que vraiment je recommande, qui est très sympathique. Un roman c'est l'histoire d'un gestionnaire d'actifs parisien pendant le premier confinement et qui travaille justement dans la finance durable. Comment est-ce que vous êtes venu à écrire ce livre, ce roman ? Pourquoi ? Il y a un message derrière ?
Oh, oui, sans doute. Enfin, déjà, il y a une envie d'écrire qui n'est pas nouvelle chez moi, hein, puisque c'est le quatrième roman que je publie. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il y a eu un besoin plus particulier pendant le confinement. C'est-à-dire que dès le premier jour du confinement, j'ai senti effectivement ce besoin de faire de cette période-là un moment de réflexion personnelle, comme beaucoup. Hein, je crois qu'on a tous réfléchi un peu au monde d'après, à essayer de réfléchir à notre façon de travailler, notre façon de vivre, etc. Moi, souvent, ça passe par l'écriture, et donc j'ai commencé à écrire dès le premier jour du confinement, et j'ai essayé de d'y faire passer un peu un certain nombre de questionnements qui me venaient pendant cette période-là, et notamment effectivement les questions liées à au grand sujet qu'on traite aussi dans le monde professionnel, c'est-à-dire le lien avec la nature aujourd'hui. La question de comment se reconnecter et reconnecter notre modèle économique à la nature et arrêter cette surexploitation que l'on observe. Et puis des questions aussi plus sur la question de sociale et des inégalités. Je crois que cette période de confinement et cette période de crise est un moment où les inégalités sont en train de s'accélérer encore plus, encore davantage. Je pense qu'on est revenu. Alors je t'explique. On est revenu un peu en arrière, un peu à l'ancien régime, et que il y avait pendant cette période de confinement, en quelque sorte, une espèce d'aristocratie. De col blanc qui se sont mis tous à télétravailler, soit à partir de leur grand appartement parisien, soit dans leur résidence secondaire en province. On avait une espèce de clergé, en fait, qui était les médecins, en fait, hein, dans les hôpitaux devenus des nouveaux temples, et les clergés qui essayaient de donner un message, en quelque sorte, à l'ensemble des citoyens. Et puis il y avait le tiers-état, en quelque sorte, c'est-à-dire tous ces gens qui font des métiers qu'on appelle maintenant les métiers essentiels, et qui allaient servir, être des serveuses, des infirmières, des aides-soignants, des aides à domicile, qui ont fait le job pendant toute cette période-là. Et donc, d'une certaine façon, j'ai voulu aussi rendre une espèce d'hommage à ces personnes-là, et notamment aux femmes. Et notamment aux femmes qui sont en première ligne. Ça, c'est mon côté féministe, j'espère. L'image de l'infirmière me paraît être quand même l'image clé de cette crise, à travers tout ce qu'elle véhicule.
Et pendant ce confinement, vous avez été actif aussi, puisque en dehors de l'écriture du livre, vous avez lancé l'initiative Recovery, que j'avais suivie à l'époque. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire deux mots et nous dire où est-ce que ça en est aujourd'hui, si ça aboutit sur quelque chose ?
Alors, c'était une initiative par nature éphémère. Au moment du début du confinement, on s'est retrouvé dans une situation où il était extrêmement difficile de réfléchir et de communiquer. Enfin, toute notre activité de communication et de réflexion habituelle était un peu à l'arrêt. Et il se trouve que j'ai eu un échange, un week-end, un coup de fil que j'ai passé à Stéphane Distinguin, qui est le patron d'un cabinet de conseil qui s'appelle Faber-Novel. Et on a discuté, on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de réfléchir justement à ce monde d'après ? Alors, comme on est dans deux secteurs qui sont un peu symboliques de ces évolutions, puisque lui, il est dans le domaine du numérique, et puis donc moi, plus dans le domaine de la finance durable, ce sont quand même les deux, le développement durable d'un côté, numérique de l'autre, c'est un peu les deux tendances très très fortes d'évolution du monde aujourd'hui. Et puis on s'est dit, il y a tout un tas d'initiatives qui ont été lancées sur cette question du monde d'après, mais ce sont des initiatives qui proviennent pour l'essentiel de politiques ou d'ONG, et il y a peu de choses qui proviennent du monde des entreprises. Et finalement, le seul message qu'on a entendu des entreprises au début du confinement, c'était le message qui, vous rappelez un petit peu les controverses qu'il y a eu suite au premier message du MEDEF, dont la teneur était on entre dans une crise, donc c'est le moment de décaler tous nos engagements environnementaux parce que c'est pas la priorité aujourd'hui, donc décalons à plus tard les questions environnementales et climatiques. Donc ça a été un très mauvais message passé par le ressenti du monde des entreprises, et donc nous on avait envie de passer un message différent. Donc on a lancé cette initiative Recovery qui était en fait une plateforme. On avait lancé à la fois une plateforme numérique où on posait des questions et donc tous les intervenants pouvaient donner des idées sur comment serait le monde d'après. Et puis on a fait aussi des débats avec des personnalités politiques, des dirigeants d'entreprises sur un certain nombre de sujets liés à l'entreprise, notamment qu'est-ce qu'il faut garder en fait de cette phase. Quelles sont les éventuelles évolutions qu'on considère comme étant positives finalement, qu'il faut qu'on garde. Je pense notamment évidemment à la question du télétravail et dans quelle mesure le télétravail va modifier de façon structurelle la façon de travailler dans les entreprises. Ensuite, on s'est posé la question de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, relocalisation. Est-ce que cette crise peut nous amener à revoir la façon de s'approvisionner et donc de réinternaliser un certain nombre de choses en France et en Europe. Ensuite, on a vu un troisième axe qui était autour de l'écosystème. Comment mieux travailler ensemble ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions justement d'arrêter de voir les entreprises secteur par secteur ou silo par silo, mais plutôt essayer de comprendre, de construire des coalitions, des collaborations entre secteurs. Puis il y avait le quatrième axe qui était précisément sur le rôle de l'entreprise et l'entreprise à mission. Est-ce que c'est une solution pour l'avenir ? Voilà. Et donc on a réfléchi à ces quatre sujets-là. On a fait un rapport final qu'on a communiquer au pouvoir public, à un certain nombre de décideurs avec des recommandations, quelques idées. Voilà ce qu'a été Recovery.
D'accord, merci. Et c'est appelé à suivre après le rapport. Je veux dire, vous avez eu des réponses des pouvoirs publics, ça a fait écho un petit peu.
Ben, je pense que ça contribue à la prise de conscience générale et à quelques échos. Je pense notamment à la création du secrétariat d'État qu'a pris Olivia Grégoire, donc qui je trouve assez intéressant parce que c'est un nouveau secrétariat d'État au sein de Bercy, au sein du ministère de l'Économie, qui est dédié à l'économie sociale et solidaire et responsable, c'est-à-dire quelque chose d'assez large et qui aujourd'hui traite de l'ensemble de ces sujets-là, et notamment il y a quand même pas mal de discussions autour de comment est-ce qu'on peut favoriser les entreprises les plus vertueuses. Donc, je pense notamment aux initiatives qui sont poussées par ce qui s'appelait avant le MOVE, qui s'appelle maintenant le Mouvement Impact France, qui était avant le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, et qui pousse l'idée d'un impact score, un peu de la même façon que vous avez l'impact nutritif sur les produits alimentaires. Est-ce qu'on pourrait calculer un score d'impact pour les entreprises? Et est-ce que ce score d'impact pourrait permettre aux entreprises qui ont les meilleurs scores d'avoir des avantages, avantages fiscaux, avantages dans certains appels d'offres? Voilà, donc donner des incitations à aller vers des entreprises, encore une fois, connectées à l'intérêt général. Donc oui, voilà, je crois quand même quelques petites choses qui sont en train de bouger dans ce domaine.
Vu que vous parlez effectivement du MOVE, c'est la coprésidente, je crois, Eva Sadoun, a lancé avec son entreprise Lita une app qui s'appelle Rift, qui permet justement de donner, entre guillemets, la couleur de notre épargne ou de nos investissements.
Absolument. Donc, bon, voilà, moi, je trouve que ce que fait Eva est vraiment très bien et formidable. D'abord, par son engagement, hein, je crois qu'on a besoin d'avoir des gens aussi engagés, et elle le fait de façon forte au niveau du MOVE et dans son entreprise. Et effectivement, Rift se veut être un espèce de Yuka de la finance, on va dire. Donc Yuka, du nom de cette application qui permet de connaître les ingrédients qui composent des produits alimentaires et cosmétiques et autres. Et donc l'idée est la même, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on peut, à travers son portefeuille bancaire, enfin, l'ensemble des produits financiers dans lesquels on est investi, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact qu'on a, des impacts positifs et négatifs environnementaux et sociaux que l'on a à travers nos portefeuilles. Donc je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, ça va dans le sens de l'évolution de la réglementation aussi, qui va exiger maintenant que les conseillers financiers posent ces questions-là aux épargnants. Et ça va dans le sens d'une transparence, d'un dialogue avec les épargnants, et donc de donner plus de pouvoir aux épargnants. C'est ce que je disais tout à l'heure, les épargnants, je crois qu'on leur a enlevé ce pouvoir à travers énormément d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'entre leur action d'aller placer leur argent, leur épargne, et le moment où cette épargne va être réellement investie, il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a leur banque, il y a une société de gestion, il y a une compagnie d'assurance. Et tout ça, aujourd'hui, est trop opaque. Donc, si on arrive à trouver des méthodes et des outils qui sont faciles d'utilisation et qui permettent d'apporter cette information, je pense que ça ira dans le bon sens.
Merci beaucoup, Philippe, pour cet éclairage sur le monde de la finance durable. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous vouliez ajouter ?
Écoutez, je crois que on est dans un moment clé. On le voit, enfin cette crise sanitaire. Je crois que les évolutions sont jamais linéaires en fait. Les évolutions sont souvent avec des points d'inflexion et des moments où les choses s'accélèrent. On le voit sur des choses très simples, hein, vous voyez, sur la voiture électrique, on voit que c'est en train de s'accélérer aujourd'hui. Il y a eu une évolution linéaire pendant quelques années, et puis là, d'un coup, il y a une accélération. Ben, je crois qu'on est dans ce genre de moment-là, avec la finance durable, avec les impacts environnementaux et sociaux au sens large, et donc il faut pas rater ce genre de moment-là, on essaie d'y travailler.
Ben merci, c'est un très beau message pour ceux qui justement veulent s'engager. Voilà, il y a des opportunités à saisir et du coup, c'est maintenant.
Absolument.
Merci Philippe et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Osez a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !